Bonjour Madame Myriam Benrad.
Bonjour.
Bienvenue à RFI dans cette émission où on va parler sur l'actualité en Irak et l'Iran qui se prépare pour organiser un grand défilé de la journée d'Arbaïn qui tombe cette année le 17 septembre. Vous êtes professeur à l'Université internationale Schiller et politologue spécialiste également du monde arabe. Il y a quelques jours, Murtada Sadr a mis la clé sous la porte et a déclaré qu'il ne participera plus aux activités politiques. Qu'en pensez-vous ?
Bon, alors tout d'abord, ce n'est pas la première fois que Murtada Sadr annonce son retrait de la vie politique puisqu'il l'avait déjà fait. Maintenant, il est évident qu'il s'est positionné sur une ligne très islamo-nationaliste. Je n'irai pas jusqu'à dire anti-iranienne, mais qui est très critique de l'Iran et des milices, notamment chiites, qui sont liées à l'Iran et très aujourd'hui très influentes en Irak. Donc il a pris cette position, essayé de constituer une coalition autour de lui, justement en usant de cette... De ce rejet, de cette opposition à l'Iran, même si elle n'est pas totale, il ne faut pas non plus croire que Sadr est totalement étranger à l'Iran. Et il n'a pas réussi, sous la pression notamment des milices chiites, ce qui explique qu'on a été dans une situation de blocage pendant des mois, blocage qui perdure d'ailleurs, et qu'il a finalement décidé de se retirer. Alors maintenant, on peut quand même questionner la notion de retrait, parce que comme je l'ai dit, il s'est déjà retiré à plusieurs reprises de manière formelle. Il maintient tout de même une base partisane très importante. Il n'a pas dit non plus qu'il se retirait totalement de toute activité politique, puisqu'il a plutôt encouragé sa base à continuer d'essayer d'influencer le jeu politique et surtout de le réformer parce qu'il avait aussi pris cette position très réformiste en dénonçant justement le conservatisme et la léthargie des élites en place avec la complicité, ce qu'il estime être la complicité des milices qui sont concurrentes de l'appareil d'État. Ce retrait n'est pas, ne peut pas résumer entièrement ce qui se passe puisqu'on a quand même un contexte qui n'a pas forcément beaucoup évolué depuis plusieurs années. C'était déjà plus ou moins le cas pour les dernières élections.
Je reviens toujours sur l'Iran, le rôle de l'Iran dans son pays voisin. Est-ce que vous considérez l'Iran tellement influent pour pouvoir manipuler le mouvement Sadr à tel point ?
Alors, manipuler, encore une fois, il y a quand même activement une coopération d'un certain nombre d'acteurs chiites avec l'Iran, puisque l'Iran est le parrain de ces forces. Il ne faut pas oublier que beaucoup de groupes de mouvements chiites qui étaient persécutés sous le régime de Saddam Hussein se sont réfugiés en Iran. Certains de ces groupes ont d'ailleurs été formés en Iran. Donc on a des relations très importantes sur le plan politique. Évidemment aussi sur le plan religieux, qui, je dirais, même transcende le politique sur bien des aspects. Donc de ce point de vue, c'est compliqué de dire que seul l'Iran manipule ou que l'Iran serait le seul acteur responsable de cette situation. Maintenant, il est évident que depuis 2003 et le renversement du régime de Saddam Hussein, l'Iran est un acteur majeur sur la scène irakienne, un faiseur de roi puisqu'il n'y a pas eu de premier ministre nommé sans l'aval des Iraniens. Et aujourd'hui, il est évident que l'opposition qui a été celle de Sadr aux milices qui sont très liées à l'Iran a bien sûr beaucoup pesé sur cette situation de blocage et sans doute été un moyen utilisé par le régime iranien pour marginaliser un acteur qui posait problème, à leurs yeux en tout cas. Maintenant, j'aimerais quand même rajouter une chose. Sadr, lui aussi, fait partie de ce système politique sclérosé. Il n'est pas totalement innocent de ce qu'il dénonce. Donc c'est compliqué parce que c'est aussi très lié, je dirais, aux élites irakiennes elles-mêmes, qui se sont largement discréditées à travers leur mauvaise gestion du pays, la corruption, donc qui ont finalement aussi un peu poser les jalons ou cultiver ce terreau favorable aux ingérences extérieures au-delà de l'occupation étrangère, bien sûr, que le pays a connue.
Revenons maintenant un peu sur la société irakienne, en nous éloignant un peu de la politique. Dans les réseaux sociaux en Iran, il y a souvent des vidéos qui montrent les pèlerins iraniens maltraités par les Irakiens, parce qu'au sein de la société irakienne, les gens sont partagés. Il y en a qui sont pour les Iraniens pour le pèlerinage des Iraniens, parce que ça apporte de l'argent, parce que c'est le tourisme et tout. Et il y en a beaucoup qui détestent les Iraniens en raison de l'ingérence politique de la République islamique en Irak. Comment vous décrivez la société irakienne à ce propos ?
Alors bon, je serais peut-être plus nuancée parce qu'il est vrai que l'ingérence iranienne fait l'objet de rejets aussi dans les provinces du sud de l'Irak, qui par ailleurs, il faut le rappeler, historiquement étaient particulièrement nationalistes, du fait d'ailleurs de la guerre qui avait eu lieu contre l'Iran entre 80 et 88. Maintenant, est-ce que j'en déduis pour ma part qu'il y a une hostilité collective généralisée contre les Iraniens ? Je ne crois pas. Pourquoi ? Parce qu'on a cette solidarité interconfessionnelle qui est très forte et qui surtout est rehaussée par le contexte du pèlerinage en lui-même. L'idée n'est pas de se diviser à l'occasion de ce pèlerinage, mais de célébrer en commun, donc autour encore une fois d'une solidarité entre croyants. Donc je ne pense pas qu'on puisse généraliser à ce point. Il y a quand même des liens culturels, religieux, voire familiaux dans bien des cas très importants.
Est-ce que vous avez une prévision particulière, parce que de la cérémonie qui va avoir lieu demain, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un danger ? Est-ce que les pèlerins risquent quelque chose ?
Alors, je ne pense pas encore une fois qu'à l'occasion d'Arbaïn, on est forcément à craindre des attaques, par exemple, qui opposeraient des groupes chiites, rivaux, sur le plan politique. Parce que, comme je l'ai dit, on est dans un contexte là, religieux, donc de commémoration religieuse qui ne se prête pas en fait à ce type d'incident. Donc je pense pas qu'on puisse assister à ça. Maintenant, sur le plan sécuritaire, la grande crainte des autorités irakiennes, de l'Iran et des pèlerins eux-mêmes depuis des années, c'est bien sûr les attentats. Puisque à plusieurs reprises, un groupe comme l'État islamique a menacé bien sûr de s'en prendre aux pèlerins, aux lieux de culte, à ces célébrations. Donc ça, c'est une crainte constante. Maintenant, il y a un certain dispositif de sécurité qui est quand même déployé. Les milices seront présentes, elles sont armées, elles sont assez familières de, bien entendu, de cette violence terroriste.
Myriam Benra, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de la conjoncture de l'Arbaïn, la grande cérémonie chiite.